vous avez dans vos propos l'idée que il y a des messages qu'on transmet aux enseignants dans la formation qui pourraient amener à des malentendus sur ce qu'est la créativité d'un enfant, d'un adolescent.
Je pense qu'on transmet beaucoup d'éléments aux futurs enseignants ou aux enseignants dans les formations, pas seulement sur les discours ou les messages qu'on leur donne, mais sur ce qu'on dit pas aussi, sur les situations dans lesquelles on les met, et puis par rapport à la créativité. Il y a cette espèce d'injonction où elle ferait partie de tout, elle est partout, elle est dans tous les textes, puis en même temps elle n'est pas reprise, peut-être dans les branches artistiques un petit peu, mais elle n'est pas reprise comme dans les différentes disciplines, donc c'est quelque chose qui plane un peu comme ça. Alors quand je dis que les messages qu'on transmet, c'est les activités dans lesquelles on les plonge, ce qu'on leur demande de faire, le type d'activités qui sont évaluées, qui sont certifiées dans leur, enfin, qui font l'objet de certification, pour moi, sont des messages beaucoup plus forts que les discours qu'on leur porte.
Oui, du coup, avec cette idée que l'enfant devrait découvrir son savoir, oui. C'est quelque chose toujours qui, selon vous, circule un peu trop dans les milieux de la formation.
Ah oui, la doxa de la pédagogie de la découverte, oui. En tout cas, je n'arrive pas à mesurer quelle est la part qui est induite par les formateurs, puis quelle est la part qui est prise sur le terrain, puisqu'ils sont en stage chez nous en Suisse, ils ont pas mal de temps en alternance, ils ont pas mal de temps en stage, mais ils terminent leur formation avec cette doxa-là, elle ne bouge pas. J'ai analysé des corpus sur les 3 ans de formation que dure la formation chez nous, j'ai analysé des travaux écrits d'étudiants, d'une 18 étudiantes. Et on les voit, dans la progression, il y a des choses qui bougent, mais la pédagogie de la découverte, ça ne bouge pas, ça se renforce même pendant la formation. Donc c'est l'idée que tout doit venir de l'enfant, le savoir vient de l'enfant, la créativité vient de l'enfant, tout doit venir de l'enfant. Et l'enseignant ne doit pas s'ingérer.
Alors que finalement, vous dites à l'inverse que l'imagination se développera d'autant plus qu'on va développer des outils, développer des contraintes, des normes. C'est ça l'idée qui sous-tend vos propos ?
C'est pas développer des contraintes, des normes, c'est à la fois avoir un terreau d'expérience qui me permet de nourrir mon imagination, mais d'avoir des outils dont l'usage me permet de donner forme à cette imagination. Je prends l'exemple qu'on voit beaucoup dans les arts visuels, de dessiner à la manière d'eux. Et c'est frappant de voir comme malheureusement on montre à l'enfant que la dimension extérieure, je pourrais parler du faire, hein, pour reprendre l'opposition faire et apprendre qui a été développée par Elisabeth Bautier, on est dans le faire, c'est-à-dire qu'on dessine quelque chose qui ressemble à ce que l'artiste a mis en œuvre. Or, en termes d'outils, je trouverais plus intéressant de se demander, mais qu'est-ce que ce mouvement artistique, hein, le pointillisme, ou prenons le pointillisme, qu'est-ce que ce mouvement a essayé d'exprimer, en quoi cet outil technique permettait à un moment donné à une communauté d'artistes d'exprimer quelque chose de particulier, et puis de donner accès à l'enfant au sens qui est derrière cet outil. Et je pense que même un tout petit, on peut entrer dans ce genre de démarche, plutôt que de prendre un crayon puis de faire des points pour que ça ressemble à l'œuvre qui a été observée.
Alors si on imagine une situation, on est dans une école de l'éducation prioritaire avec des enfants de 10-11 ans, ça serait quoi la gestion pédagogique qui ferait que, justement, la même activité pourrait changer de sens si on essaie d'illustrer,
En musique, il y a un enjeu, c'est de pouvoir faire de la musique à plusieurs. La musique est souvent un acte collectif. Donc à un moment donné, on va avoir besoin d'outils pour se mettre d'accord sur un certain nombre de points communs qui nous permettent d'improviser, de construire musicalement ensemble. Dans ce cadre-là, par exemple, la mesure du temps musical, le fait de savoir dans quel type de mesure on s'insère, à 3 temps, à 4 temps, va être un outil qui nous permet d'être d'accord collectivement et d'improviser dans une structure un tempo, une structure rythmique qui nous permet de pouvoir avoir quelque chose qui sonne ensemble. Le fait de découper le temps, c'est différent de dire aux élèves, attention, je compte jusqu'à 4, puis on commence tous ensemble, et puis on le refait 50 fois, mais là on est dans le faire. Au niveau de l'usage de l'outil, c'est de dire à un moment donné, on est dans une musique qui se découpe sur 4 temps, par exemple, hein, régulièrement, et bien, si on s'insère dans cette dynamique des 4 temps, on peut être rejoint, on peut entrer, ressortir du collectif à tout moment parce qu'on a justement un outil qui nous permet de nous coordonner sur le plan rythmique, par exemple.
Et du coup, cet outil-là, il est graphique, c'est-à-dire il est tracé.
Il peut être dessiné. Il peut même être faire l'objet d'une trace. Effectivement, il y a une symbolisation du rythme qui nous permet d'être d'accord. Et alors là, évidemment, on peut aller un cran plus loin et puis entrer dans l'écriture musicale qui est une symbolisation qui nous permet de transmettre à d'autres quelque chose qu'on avait produit au niveau du son. Là, je parle d'outils qui ont vu jour avant les enregistreurs ou d'autres possibles et qui donc a permis à l'homme, l'écriture musicale permet à l'homme de transmettre à quelqu'un qui est absent un contenu musical.
Vous insistez sur le fait que même dans le contexte scolaire, le jeu ne doit pas disparaître, mais c'est l'intériorisation du jeu qui nourrit l'imagination. Mm-hmm. Pourriez-vous nous préciser ce que vous entendez derrière ça ?
Le jeu, dans la perspective vygotskienne, le vrai jeu, c'est cette activité dans laquelle l'enfant choisit de s'investir, choisit la façon dont il s'investit, les règles. Idéalement, quand ce jeu mûrit, il passe par une phase de jeu plus collectif, donc négocie, se met d'accord avec des collègues sur la mise en œuvre du jeu. Il peut être individuel aussi, hein. Pour moi le dessin fait partie clairement de ce type de vrai jeu. Et à un moment donné, comme le langage, hein, qui devient progressivement intérieur, ben ce jeu progressivement s'intériorise et puis fait place à une pensée qui peut imaginer des possibles, qui peut inventer des histoires, qui peut construire des scénarios, mais qui peut aussi imaginer des possibles, des hypothèses, les tester par la pensée. Et donc c'est vraiment la façon dont on peut se mettre comme ça dans une posture imaginaire, qu'elle soit à visée purement descriptive, hein, raconter des histoires ou narratives, ou à visée même réflexive, se poser des questions, s'organiser, se projeter, eh bien c'est en quelque sorte un jeu qu'on joue à l'intérieur et où on joue les différents rôles et on joue les différents protagonistes de ce jeu-là.
Ce que fait un élève ou un apprenant, ce qui fait qu'il s'engage dans ce qu'on lui propose, dans une situation qu'il va intérioriser, qu'il va rentrer dans la culture, est-ce que c'est finalement si différent en science, en littérature, en maths ou en art plastique ?
Pour moi, c'est pas différent. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de commun, mais ce qui va faire l'engagement, ou ce que j'aimerais, ou ce qu'idéalement devrait faire l'engagement pour qu'on puisse vraiment entrer en discipline, c'est ce sens profond qui est donné par l'outil. Chaque discipline m'offre des possibles de pensée sur une autre partie du monde ou sur d'autres dimensions de ce qui peut être pensé. La musique m'ouvre des possibles sur comment je peux penser le son. La peinture va m'ouvrir des possibles sur comment je peux représenter l'image, le représenter de manière plus visuelle ce que j'ai vu, ce que j'ai éprouvé. Les mathématiques vont me permettre de développer des outils qui me permettent de penser, d'organiser, de structurer une réflexion, une déduction, une résolution de problèmes, et ainsi de suite. Et donc, ce qui devrait idéalement, quand on parle toujours du sens des apprentissages, ce qui devrait idéalement être l'origine du sens, c'est de comprendre que cet outil va me permettre de m'ouvrir, de penser des choses que je ne pouvais pas penser, et de grandir donc grâce à cet outil-là.